Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le réseau FM+, et content de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Je vous avais fait faux bond la semaine dernière, victime de ce rendez-vous annuel de la grippe qui était de passage et puis s'est arrêté chez moi pour quelques jours. Donc voilà, je vous retrouve une fois échappé de ces griffes. Alors, on se retrouve et j'aurais bien aimé partager l'émission de la semaine dernière, d'autant plus qu'elle parlait d'amour et amitié, et c'est un sujet qui me passionne, surtout que selon les cultures, on a le sentiment que ce sont deux sentiments qui ne sont pas associables. L'amour est l'amour, l'amitié est l'amitié, et surtout quand c'est de l'amitié pour une femme ou d'une femme vers un homme, on sent que cela ne va pas de soi. Alors aujourd'hui, on va aborder un autre élément qui est aussi important, qui est la question de l'instrumentalisation de l'autre. Et avant d'aborder cette instrumentalisation de l'autre, donc d'un nouvel paragraphe, un nouvel chapitre de votre livre, qui s'intitule pour mémoire, Méandre de l'amour, Eros et Agapé, livre qui est paru aux éditions Dervy. Alors, ce que disait Antonio Gramsci, il disait « Le malheur a habituellement deux effets ». Souvent, il éteint toute affection envers les malheureux, et non moins souvent, il éteint chez les malheureux toute affection envers les autres. D'où la question de la manipulation ou de l'utilisation de l'autre.
Absolument, oui. Un malheur qui peut être tel que on se replie sur soi-même, finalement. Hein. C'est ça un peu le sens de votre citation, Redouane. Alors, ne pas instrumentaliser l'autre. Nous avons vu lors de la dernière émission que nous avons dans l'amour une ambition de fusion, hein, une ambition de symbiose, vivre ensemble en grec, hein, symbiose. Bon, comme deux bougies dont les deux flammes se rapprocheraient et qui ne feraient qu'une seule flamme, si vous voulez, hein. Seulement, le problème, c'est qu'il faut creuser. Hein. Qu'est-ce qu'on entend derrière cette fusion en amour, hein. Parfois, cette fusion recouvre des motifs fort intéressés. Par exemple, chez certaines femmes, derrière la quête du prince charmant, ou derrière celle d'un Superman qui les emporte dans les airs, comme dans le film qui porte ce nom, Superman, hein, il peut y avoir tout simplement et trivialement la quête d'un monsieur bricolage, c'est-à-dire d'un aide pour les problèmes matériels qui se posent quotidiennement dans la vie, vous voyez. Et c'est d'ailleurs la même chose pour l'homme. Derrière la recherche de la femme idéale, archétypale, définitionnelle, hein, on peut voir se profiler la recherche d'une femme de ménage, tout simplement, hein. Et donc, on oublie fréquemment le conseil de Georges Brassens dans la chanson que nous allons entendre tout à l'heure. Dans sa non-demande à mariage, Brassens nous dit « De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins je te dispense, car l'éternel fiancé à la dame de mes pensées, toujours je pense. » Mais en général, même si on laisse de côté ce motif trivial, beaucoup cherchent simplement dans l'amour qu'ils portent à quelqu'un, simplement un remède contre leur propre solitude. Voyez, Redouane, moi j'aime bien regarder dans les journaux les petites annonces, hein, les annonces de rencontres, par exemple. On lit parfois le libellé suivant, « N'en pouvant plus de solitude, cherche l'âme sœur, etc. » Vous voyez, hein, c'est instructif de lire ces petites annonces, parce qu'on voit justement les motifs qui poussent les gens à mettre ces annonces précisément. Alors, on sait que depuis le philosophe Kant, hein, et depuis ses fondements de la métaphysique des mœurs, on sait qu'une des maximes fondamentales de la moralité, c'est qu'il ne faut jamais traiter l'autre comme un moyen, mais toujours comme une fin. Donc, si je cherche dans l'autre un remède à ma propre solitude, je le traite comme un moyen et non pas comme une fin. donc je le manipule et je le plie selon les exigences de mon intérêt. Je me sers de lui comme d'un remède ou d'un instrument pour soulager mon propre mal-être. Alors, c'est une sorte de prothèse, et par cette prothèse, je me protège. Mais qu'en est-il de l'autre? L'autre n'est pas connu en tant que tel, n'est pas respecté, hein? Alors, à ce compte-là, si l'on cherche un moyen pour échapper à sa solitude, mieux vaudrait prendre un animal de compagnie, vous voyez? Et ainsi, la fameuse âme sœur finirait au poisson rouge, hein? Vous voyez? Alors la vérité, il me semble, hein, c'est que dans ce processus, l'on se fuit soi-même, car on n'a pas en soi de ressources suffisantes pour se faire face à soi-même et pour s'accepter, et l'on considère autrui de façon complètement égocentrique. Cette attitude est très répandue. Voyez, Redouane, je pense que la plupart des gens vivent pour eux-mêmes et par les autres, alors qu'il faudrait vivre par soi-même et pour les autres, vous voyez. Le préalable à l'amour véritable, c'est une certaine autarcie, autarcie du grec autarkeia, qui signifie le fait de se suffire à soi-même. Et cette autarcie, on l'acquiert parfois, mais pas toujours, hélas, hein, au fur et à mesure que l'on avance dans la vie. Je dirais donc qu'il faut abandonner à la fois la dépendance instrumentalisante et manipulatrice vis-à-vis de l'autre qui caractérise Eros, précisément l'amour de désir, et symétriquement une survalorisation potentielle de l'importance de l'autre au détriment de la sienne, un décentrage ou un oubli de soi. Et là, nous sommes en face des dangers majeurs qui menacent Agapé ou l'amour de don, l'oubli de soi-même, vous voyez, hein. Car certains sont prêts à tout, y compris à s'oublier eux-mêmes, pour s'attacher à la présence d'un autre, pour ne plus être seul, vous voyez. Alors, il y a deux dangers, vous voyez, il y a un danger dans Eros, hein, l'instrumentalisation de l'autre et sa méconnaissance, et un danger dans Agapé, qui est l'oubli de soi, l'oubli de sa propre nature. On cherche le sacrifice, et le sacrifice n'est jamais une bonne chose. J'y reviendrai, hein. Car il me semble que autant l'amour pur, vrai, mature est essentiel à la vie, autant sont essentielles la réunion de soi à soi, le centrage, sans lesquels aucune relation vraie n'est possible. Vous voyez, Redouane, je viens de parler d'égocentrisme. C'est évidemment un défaut, l'égocentrisme, puisqu'il consiste à tout ramener à soi. Mais je défendrai un regard, même si je dois choquer, hein, l'égoïsme, en voyant dans l'égoïsme simplement le fait de penser à soi. Le souci de soi n'est pas un défaut, même s'il y a encore beaucoup de dictionnaires, et là j'ai vérifié dans le Robert, hein, beaucoup de dictionnaires assimilent les deux mots. Dans Robert, on voit dans égoïsme, attachement excessif à sa propre personne. Eh bien, ceci n'est pas admissible, à mon avis. Parce que ici, la part d'idéologie est très grande. Nous avons depuis 2000 ans l'habitude d'une valorisation en christianisme du sacrifice de soi, hein. Et dans un ouvrage même laïque, comme l'est ce fameux dictionnaire Le Robert, on voit passer cette même doxa. Doxa, c'est l'opinion répandue, qui dévalorise l'égoïsme. Je pense, vous voyez, Redouane, que dans la vie, il faut parfois avoir assez d'égoïsme pour résister à l'égocentrisme des autres. Vous voyez, là, je pèse mes mots, hein. Égoïsme, souci de soi, égocentrisme, tout ramener à soi, hein. Et les proverbes le disent bien. Il y a des proverbes qui nous disent, par exemple, qui n'est bon pour soi n'est bon pour personne, vous voyez. Un autre proverbe nous dira, charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment peut-on espérer aider autrui, pouvoir faire quelque chose pour son bonheur, si l'on est soi-même dans un état de dépendance, si l'on vit soi-même d'aumône, dans un état de mendicité, si l'on a besoin de quelqu'un pour se sentir vivre? Un autre proverbe, alors il est latin celui-là, hein, dit très bien aussi, medice sanate ipsum. Alors, je vous le traduis, médecin, soigne-toi toi-même. Parce que il y a un altruisme qui effectivement est une mendicité, une fuite hors de soi, un refus de s'assumer, de se voir tel qu'on est. et même de se supporter. Pascal dit « Tout le malheur de l'homme vient de ce qu'il ne sait pas demeurer en repos dans une chambre », vous voyez. Et ces analyses de Pascal sur ce détournement de soi, qui est très préjudiciable, détournement qu'il appelle un « divertissement », du latin « divertere », détourné, eh bien, elles ne sont pas nouvelles. Elles ont déjà été faites dans l'Antiquité. Voyez Lucrèce et l'évocation de l'insatisfaction constante de l'homme qui cherche toujours à changer de place et qui ignore les raisons de ce dégoût de la vie qu'il éprouve. En latin, taedium vitae, dégoût de la vie. Et ce dégoût de la vie est aussi un dégoût de soi, taedium sui en latin. Hein. Tout cela pousse à ce divertissement. On trouvera cela dans le De Natura Rerum de Lucrèce, au chant 3, au vers 1053 à 1079. Mais voyez aussi ce que dit Sénèque à Lucilius pour le mettre en garde contre les déplacements incessants, les voyages. Il nous dit, par exemple, dans la lettre 28 du chapitre 3 des lettres à Lucilius, Ad Lucilium, c'est d'état d'esprit que tu dois changer et non pas de ciel. Tu te fuis toi-même. Je ne résiste pas au plaisir de le dire en latin, hein. Animum debes mutare non caelum, tecum fugis. Tu te fuis avec, en ta propre compagnie. Alors, voyez, Redouane, aujourd'hui, on parle beaucoup du développement personnel. Toutes les librairies regorgent de livres, apprenez le bonheur, soyez heureux, etc. Mais, vous savez, il suffit de lire les anciens. Lire Sénèque, par exemple, le De Vita Beata, les lettres à Lucilius, donc ce n'est pas nouveau, ce développement personnel. Les sages antiques, eh bien, avaient fait toutes les analyses qui préoccupent les auteurs modernes. Simplement, est passé par-dessus toute la vague chrétienne, au fil des siècles, si vous voulez, qui a fait un peu oublier cet idéal de l'autarcie que les sages antiques préconisaient, et aussi de l'ataraxie. L'absence de troubles, vous voyez. Et alors, à l'époque moderne, regardez par exemple ce que dit Baudelaire dans Les Hiboux, dans Les Fleurs du Mal, hein. L'homme ivre du nombre qui passe porte toujours le châtiment d'avoir voulu changer de place. Alors, en préparant cette émission, j'ai pensé à vous, Redon, et je me suis dit, il va se sentir agressé puisqu'il est un grand voyageur devant l'Éternel. Hein. Vous aimez beaucoup les voyages. Eh bien, beaucoup de sages les ont dévalorisés, les ont critiqués. Je sais que je suis face à quelqu'un qui a arpenté le monde. Hein. Colette disait, les voyages sont pour ceux qui manquent d'imagination. Vous voyez, Redouane.
J'en ai manqué beaucoup.
Ah oui, voilà. Vous avez manqué beaucoup. Bon, il y a place pour tout, bien sûr. Hein. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Sestula qui conquit la toison, c'est Jason, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Parce que Ulysse, par exemple, après avoir parcouru le bassin méditerranéen, est revenu à Ithaque, son lieu de naissance. C'est nécessaire, non, Redouane?
Ah oui, oui. J'ai toujours considéré mes déplacements comme un cerf-volant. Et le cerf-volant a toujours une corde, il est rattaché à quelque part. Si on n'a pas un enracinement précis, on ne peut pas se définir aussi par rapport aux autres. Ces découvertes sont des découvertes de soi, en fait. Parce qu'on est, amené à se définir, à dire qui on est à l'autre qu'on en découvre. Donc, et chaque fois on se découvre parce que l'autre est différent et son repère est très différent. Je parlerai pas de moi de la même manière à un Asiatique qu'un Kanak de Nouvelle-Calédonie ou qu'un Canadien.
Absolument. C'est une occasion de se découvrir soi-même au contact de l'autre. Alors, en première pause musicale, nous allons écouter la chanson de Georges Brassens dont j'ai déjà parlé, La non-demande à mariage, qui nous montre les dangers d'instrumentaliser autrui.
Pas tout la gauche à tout. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau. Nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vénus, t'es vieille souvent, elle perd son latin devant la lèche frigide. À aucun prix, moi je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue, mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits en dévoilant trop les secrets de mes lucides. L'encre des billets doux pâlit entre les feuillets des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins, je te pense qu'un éternel fiancé à la gamme de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
Toujours à l'écoute du réseau FM+, le 91 MHz sur l'agglomération Montpellier-Rennes ou bien le 103.1, l'agglomération nîmoise. Et si vous êtes au-delà de ces deux agglomérations, rien de plus simple que www.fmplus.org ou encore l'application sur votre téléphone préféré. Toujours de retour avec les méandres de l'amour. Et donc nous abordons aujourd'hui le chapitre de l'instrumentalisation d'autres, ne pas instrumentaliser l'autre. Et pour illustrer ce premier passage ou ce premier espace de notre émission avec Brassens, Michel.
Voilà, alors donc je rappelle les deux strophes importantes. De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins, je te dispense, qu'à l'éternel fiancé, à la dame de mes pensées, toujours je pense. Donc il ne faut pas instrumentaliser le partenaire ou la partenaire en disant par exemple je cherche une femme qui sache bien faire la cuisine, vous voyez, dans les petites annonces, des choses comme ça.
Il y a des restaurants pour.
Voilà, exactement. Hein, et parfois c'est implicite, on ne le dit pas directement, mais on le suppose derrière, si vous voulez. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc il ne faut pas instrumentaliser l'autre, il faut savoir se suffire fuir à soi-même, ne pas se fuir soi-même, hein, se centrer, hein, et donc se retrouver. Alors, cessons de nous fuir, retrouvons-nous, et là, ça sera la base du vrai amour. Et cet amour est fait de confiance en l'autre. Mais si on n'a pas confiance en soi, comment peut-on avoir confiance en quelqu'un d'autre, hein? Avant toute chose, par conséquent, nous devons nous accepter nous-mêmes. Et les traditions spirituelles insistent bien là-dessus. La Bible, autant dans le Premier Testament que dans le Nouveau, dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Elle ne dit pas plus que soi-même. En outre, si on ne s'aime pas soi-même, comment peut-on aimer son prochain? Si le moi est haïssable, disait Paul Valéry, aimer son prochain comme soi-même devient une atroce ironie. Vous voyez, alors le moi est haïssable, c'est ce que disait Pascal. Alors Pascal a été mieux inspiré, en particulier dans ses analyses sur le divertissement, hein. Donc, loin de condamner d'ailleurs le souci de soi, et là je parle sous votre contrôle, Redouane, loin de condamner le souci de soi, la Bible en fait le moteur de toute action positive, de tout élan vers la vie. Par exemple, Dieu dit à Abraham, en l'invitant à quitter son pays, donc à s'ouvrir sur le nouveau pays qui l'attend, il lui dit la chose suivante, « Lève-toi, va pour toi ». Vers le pays que je te montrerai. C'est Genèse, chapitre 12, verset 1. L'expression hébraïque, l'er lera, qui est traduite ici par pour toi, n'est pas un intensif comme on le croit généralement, et en passant sous silence cette expression, mais vise le bien du destinataire, comme le remarque Chouraki en note de sa traduction de la Bible. Va pour toi, va vers le pays que je te montrerai. Et il y a aussi le magnifique passage du Cantique des Cantiques, où cette même expression, l'er lera, est employée. Ainsi l'amant dit à sa bien-aimée, « Lève-toi, va vers toi-même, ma compagne, ma belle, mon amie. » Bon, voilà, c'est ça, hein. « Lève-toi vers toi-même et va vers toi-même. » C'est Cantique, chapitre 2, verset 10, hein. L'amant, dit encore Chouraki, est invitée à se retrouver elle-même. C'est dans la traduction de la Bible qu'a fait le même Chouraki, qui est paru dans l'édition Des Clés de Brouwer. Hein. Bon, en version poche, hein, version de 1995, page 1328, vous voyez, l'air l'era, va vers toi-même. Alors que peut une femme désirer de mieux que d'être ainsi appelée par son amant à aller vers elle-même, à être ainsi révélée à elle-même, et cela au sein même du plaisir physique, comme on dit d'une femme est révélée, hein. Bon, voilà. Alors, pour la Kabbale, qui est la gnose juive, ce l'air l'era est parmi les 613 mitzvot, ce sont les commandements, qu'il faut observer en judaïsme, le plus important, même s'il ne fait pas partie de ces 613 commandements. Et c'est peut-être le seul, hein. Et dans cette perspective, l'orthopraxie traditionnelle en milieu juif, je rappelle qu'orthopraxie c'est le fait de faire ce que l'on doit faire, hein, faire la loi, hein, elle est très simplifiée, si l'air l'era est l'essentiel, hein. Et pour la gnose chrétienne, la Kabbale est une gnose juive, pour la gnose chrétienne, le retour à soi, c'est l'opération essentielle et indispensable à faire avant, dans la vie, de faire son sursaut ou sa résilience. Et on en trouve un admirable exemple dans la parabole de l'enfant prodigue, dans l'évangile de Luc. Cette parabole, il faut la lire et méditer longuement, c'est une de mes paraboles préférées. Il faut en peser tous les termes, elle se trouve en Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Cet enfant a quitté le domicile familial, après avoir obtenu sa part d'héritage, qu'il a gaspillé en menant une mauvaise vie. Et puis, étant dans le dénuement, il s'interroge. Voici ce que dit Luc, étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, etc. » Vous voyez ? Alors l'important, c'est de revenir à soi, étant rentré en lui-même. Eiseoton elton dans le texte grec. Inse autem reversus, Reversus dans la Vulgate, vous voyez. Donc la conversion va être une réversion, c'est-à-dire un retour à soi. Et ce retour à soi fait penser à celui d'Auguste dans Cinna de Corneille, vous voyez. Rentre en toi-même, Octave, et cesse de te plaindre. Lorsque Auguste se demande s'il doit pardonner aux conjurés qui ont ourdi leur complot contre lui, vous voyez, rentre en toi-même, Octave, et cesse de te plaindre. Et grâce à ce retour à soi, vont se faire le redressement et le relèvement, c'est ce que dit l'enfant prodigue. Je me lèverai, Anastas porosomai, hein, me levant, j'irai vers mon père. Et alors dans la Vulgate, c'est magnifique, bon, c'est une traduction de seconde main, je sais que les protestants ordinairement ne l'aiment pas, mais je l'apprends, moi, non pas par préjugé de latiniste, mais parce que les mots latins donnent des mots français. Que dit « je me lèverai » c'est « surgam », surgam, « je me dresserai », qui est la même racine que source et que résurrection, surgeré, vous voyez, se dresser, hein. Donc se redresser, on va à la source profonde de l'être, et j'ai développé ça dans un autre livre paru chez Golias récemment dans sa troisième édition qui s'appelle La source intérieure, vous voyez. Donc source, résurrection, se dresser, tout ça c'est la même chose, hein, surgeré, voilà. Et à la fin de l'épisode de l'enfant prodigue, on voit bien que c'est de cela qu'il s'agit, d'après la parole que prononce le père. « Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » C'est chapitre 11, verset 24, et puis verset 32. Et on peut traduire aussi le passage d'une façon plus profonde et plus intériorisée, le passage « il était perdu, il s'est retrouvé », ce que dit le père, par « il s'était perdu et il s'est retrouvé ». Vous voyez, « il était perdu et il est retrouvé », on peut le traduire « il s'était perdu et il s'est retrouvé ». Donc ce retour à soi, cette conversion-réversion, l'enfant prodigue n'a pu les faire qu'en revenant à lui. Alors cette expression en français « revenir à soi », je vérifie dans le dictionnaire, se dit de celui qui reprend conscience après un évanouissement. Il est revenu à lui, hein. Mais on peut donner à revenir à soi un sens plus profond et plus spirituel, plus en rapport avec ce qu'on appelle l'esprit, hein, l'esprit, le Saint-Esprit, hein. Et d'ailleurs, on dit aussi reprendre ses esprits, hein, dans une pareille circonstance. Donc, si l'histoire de cet enfant est celle d'une résurrection, elle est bien sûr de nature spirituelle, c'est-à-dire le redressement dès cette vie-ci, et non pas littéral, qui serait la réanimation d'un cadavre, selon ce que dit par exemple le symbole des apôtres, la résurrection de la chair, hein. Et c'est selon aussi le sens donné à ce mot dans le christianisme majoritaire. Donc je laisse de côté ce sens de la réanimation d'un cadavre pour prendre un peu ici ce que Cyrulnik appelle la résilience, hein. Et ces résurrections, elles sont miraculeuses, on en fait parfois dans la vie à plusieurs reprises, parce qu'on meurt souvent dans la vie, hein. Un deuil, un être qui nous était cher, nous a quittés, ou bien une rupture, etc. Un malheur, eh bien on meurt. Et alors, c'est miracle qu'on se redresse, qu'on retrouve goût à la vie, hein. Et le miracle, c'est qu'on puisse encore l'espérer. Alors, pour illustrer cette résurrection miraculeuse dans la vie, j'ai choisi une chanson de Jean Ferrat, qui est aussi chantée par Isabelle Aubray, qui s'appelle « C'est beau la vie », hein, mais j'ai préféré la chanson de Jean Ferrat.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie.